MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bonjour chez vous. Bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, jeudi, on a attendu jusqu'à vers la fin de la semaine pour avoir Annabelle et Franck parce que ça va être le cocktail.
T'es contente?
Je suis trop contente de te voir, Annabelle.
Tu trouves personnellement que tu as bien assuré le remplacement de Yveline?
Écoute, tu peux envoyer. Est-ce que tu as envoyé un email à Yveline peut-être? Un audio, un vocal?
J'ai envoyé un vocal tout à l'heure, ouais.
On se demanderait pas c'était quoi.
Peut-être des reproches.
Est-ce que tes reproches vont me faire fuir en soir? Si j'anime plus mon CV, c'est parce que. Les reproches de Frank vont me faire.
T'es peut-être la seule à qui je fais des reproches de cette façon, Nadine.
Ouais, parce qu'on aime bien rigoler.
On va parler dans cette émission
aussi. Oui, parce que c'est vrai, c'est ça le thème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ça le thème. Aujourd'hui, on va parler des reproches. Tes reproches font-ils fuir les autres? Parce que c'est vrai, on peut dire des choses, des fois, des bonnes choses, mais d'une façon qui va nous faire perdre une relation. Comment être bienveillant tout en donnant nos reproches? C'est possible de le faire et Annabelle va faire une rubrique famille.
Oui, parce que en tant que maman, surtout en tant que parent, on peut aussi avoir à faire face à différentes sortes de reproches. Donc on verra comment faire la différence entre les reproches et puis aussi les conseils et la critique constructive.
Super. Et avant tout ça, on va commencer avec toi, Monsieur Poulain.
Oh oui.
Dans la pensée du jour.
On va parler de reproches et on va les lire ensemble dans Matthieu, chapitre 17, les versets 17 à 20. C'est Jésus et c'est un super exemple de reproche, justement, parce qu'il en a fait. Et ce n'était pas toujours forcément agréable à entendre, j'en suis certain, mais il l'a fait. Et là, on lit au verset 17, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? » Et là, vous vous souvenez, c'est cette histoire où est-ce qu'il y avait un petit garçon qui avait besoin de délivrance, son père était venu courir à Jésus, « S'il te plaît, aide-nous », etc. et tout ça. On peut lire ça aussi dans Marc, chapitre 9, si ma mémoire est bonne aussi. Et là, Jésus dit, « Jusqu'à quand serai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » En parlant du petit enfant, les disciples avaient essayé de chasser le démon, ils n'avaient pas été capables. Au verset 18, « Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. » Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Et là, dans Marc, on voit justement qu'ils s'étaient retirés avec les disciples, ils étaient ensemble, et là, ben, il y a un à un qui se fait. Et là, les disciples posent la question à Jésus et ils lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Donc là, on a un exemple ici de Jésus qui fait un reproche, et même plus qu'un reproche. Et puis là, je veux apporter quelques points sur comment pouvoir apporter soit, je vais le dire comme ça, une critique constructive, un reproche, pouvoir parler à quelqu'un, que ce soit dans votre vie professionnelle, peut-être au travail, des gens que vous êtes dans une position d'autorité dans votre métier, et puis vous voulez parler à des gens, mais vous ne savez pas forcément comment le faire. Et toutes les fois que c'est arrivé, ça a créé une explosion et des gens qui ont quitté peut-être l'entreprise ou qui ont fait des plaintes par la suite à vos patrons parce que ça s'est mal passé. Ou dans votre famille, c'est comme ça aussi, les enfants se retrouvent découragés et votre femme très énervée. Donc, il faut comprendre que tu dois prendre en considération l'état de la personne qui se tient devant toi. Mm-hmm. Dans quel contexte est-ce que tu te situes présentement à ce moment où est-ce que tu es sur le point de faire ce reproche ou cette remarque? Prendre en considération l'état de la personne. Tu veux établir une atmosphère sécuritaire. Où est-ce qu'il va y avoir une discussion? Où est-ce que les gens vont se sentir bien? Et évidemment, d'une personne à une autre, ça peut varier aussi par rapport à cette atmosphère sécuritaire, comment la créer. Tu veux aussi t'assurer que les gens comprennent ton cœur avant de faire de mauvais commentaires sur quelque chose. Évidemment, les disciples connaissaient le cœur de Jésus. Les gens, là, ils avaient vu, ils le côtoyaient depuis maintenant un bon moment. Ils savaient, quand ils disaient quelque chose qui pouvait paraître dur, c'est parce qu'il y avait un but derrière. Après ça, tu veux aussi le faire avec un ton de voix qui soit contrôlé, évidemment, tout dépendamment, tu es avec qui. Et il faut comprendre que la critique constructive est obligatoire dans la vie. Surtout si tu veux progresser ou si tu veux faire progresser les autres autour de toi, à tes côtés, tu vas devoir faire ces choses. Maintenant, Jésus, quand il a fait cette remarque, il l'a fait un à un avec les disciples. Pour toi, dans la vie, je veux t'encourager à faire attention de ne pas faire ces choses publiquement où est-ce que ça peut créer un malaise, où est-ce que d'autres peuvent entendre alors qu'ils ne devraient pas entendre ces choses. Je veux t'encourager à le faire à l'exemple de Jésus, sachant que c'est obligé. Maintenant, on va en parler dans la discussion. On a même vécu plusieurs expériences, et moi, j'en ai vécu une même très récemment. Je vais pouvoir vous communiquer, vous partager avec les gars ici à UMCI. Mais les remarques sont une obligation. Si les gens veulent pouvoir progresser, ils doivent accepter les remarques aussi. Mais là, on parle plus de comment pouvoir les donner. Voici quelques exemples, quelques clés, quelques points que j'ai pu vous donner. Mm-hmm. Et on continue, Nadine, dans cette discussion.
Merci, M. Poulin, pour cette belle pensée. Hein. Et vraiment, ce que tu dis par rapport à Jésus, quand je parlais, je disais, c'est vrai, c'est que Jésus, il disait la vérité. Parce que des fois, il y a des gens qui ont peur de faire des reproches, ils voient des choses se passer, ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur de perdre la relation. Mais Jésus pouvait dire la vérité, oui. Mais il disait la vérité tout en respectant la relation, en respectant cette intimité qu'il avait avec ses disciples. Ses disciples ne sont pas sentis comme si, bon, à partir d'aujourd'hui, ne travaillez plus avec moi, je vais me chercher de nouveaux disciples mm-hmm. qui, eux, ont plus de foi. Non, ils savaient que malgré qu'il y avait cette remarque était pour les aider à s'améliorer. Et justement, même dans leur temps d'intimité ensemble, ils pouvaient partager pour aller plus loin. Et des fois, c'est là que le bas blesse quand on fait des reproches. Est-ce que, justement, comme tu as dit, c'est une relation qui est... C'est un moment qui est sécurisé. Donc, la reproche, je sais que je le prends pour m'améliorer mm-hmm. et non pour être cassé, en fait.
Oui, en effet. Et puis, quand les gens te connaissent, ça change tout pour moi. Mm-hmm. Moi, si je suis dans un contexte où est-ce qu'il y a des gens qui te connaissent, c'est-à-dire, mettons, à l'église locale, dans ton église locale, il y a des gens qui te connaissent peut-être parce qu'ils t'ont vu sur le haut de l'estrade, mais ils ne te connaissent pas dans la vie privée un peu plus ou personnellement. Donc, quand un pasteur arrive et c'est bing, bang, boum, tu vois, il dit les remarques et puis là, tout le monde sont démolis et puis il n'y a plus personne qui a envie de travailler ou de servir. Mais là, il faut peut-être prendre en considération ces choses-là. Mm-hmm. Quand tu connais, par contre, les personnes avec qui tu travailles, tout comme l'autre jour, justement, on avait eu...
C'est le moment du partage de ton témoignage.
On avait eu un événement. Vous voyez comment Nadine aime les potins et les petites histoires, anecdotes. Vous connaissez plus Nadine maintenant? Non, c'est pas vrai. Mais on a eu un événement. Et puis après l'événement, ça n'avait pas forcément été facile. Et là, les gars étaient là. Et puis, ils m'ont regardé. Et j'ai dit, les gars... C'était pas parfait, mais on s'en est bien tiré. Et puis, enfin, moi, je vois le but à atteindre et je le communique. Ils ont bien ri parce qu'ils ont dit, ça, c'est Frank, c'était pas parfait, mais on y est arrivé. Mais c'était la réalité. Mais tu vois, c'est qu'ils connaissent mon cœur et si j'aurais dit ça à quelqu'un d'autre, ils auraient pu vraiment mal le prendre. Mais tout dépend du contexte dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Et puis, ben, je n'ai pas donné plus de détails que ça, Nadine, parce que je veux que tout le monde reste à l'aise et justement ouais. respecter tout le monde.
On en parle après. Ici.
On en parlera après, oui. Ça te concernait d'ailleurs. Non, ce n'est pas vrai.
Mais dans la Bible, on voit que l'amour et la vérité vont toujours ensemble. Mmh. Enfin, souvent, en tout cas, ça va de pair. Et des gens qui veulent absolument marcher dans la vérité, mais qui n'ont pas l'amour, ou en tout cas qui n'ont pas la forme de l'amour, ça va être très piquant, ça va être difficile. Mais des gens qui n'ont que l'amour, mais sans la vérité, c'est aussi incomplet parce que tu vas accepter, tolérer des choses. C'est aussi une porte ouverte pour tomber dans l'hypocrisie parce que tu n'oses jamais vraiment dire, tu n'oses jamais vraiment confronter les vraies choses. Donc c'est de trouver cet équilibre entre les deux, comme Frank a dit, c'est de dire les choses, mais en même temps de créer un environnement où les gens connaissent ton cœur. Et c'est pas forcément une semaine, mais c'est juste d'établir en une phrase, bah, écoute, je t'apprécie beaucoup. Ou alors, dans un cadre du travail, je trouve que ton travail est vraiment est de qualité. Et puis, de dire quelquefois, c'est juste cette phrase-là, en fait, mm-hmm. qui va tout changer et qui va faire que, chez l'autre personne, ça crée une bonne disposition. Et pour parler pour moi, et tu vois, Frank et moi, on a des personnalités assez différentes. Et on peut entendre la même chose et ça n'aura pas mm-hmm. du tout le même effet sur Frank et moi. Mm-hmm. Frank, c'est terminé, il ferme la porte, il rentre dans sa voiture et allez, c'est fini. C'est même un bon souvenir. Et moi, ça reste vivant pendant assez longtemps, j'ai besoin de réfléchir. Et puis là, ça évoque d'autres questions, etc. Si j'en reparle à Frank, il ne sait même plus de quoi je parle. Mm-hmm. Mais c'est pour dire que, en ce qui me concerne, parce, avec ma personnalité, quelquefois, si c'est trop violent, si c'est trop fort, je ne peux même pas comprendre le fond du message. Je n'arriverai pas à comprendre la critique. Je vais juste me sentir attaquée. Et puis d'autres fois, il y a des choses qu'on m'a dites qui étaient vraies, qui étaient difficiles à entendre, mais il y avait plus ou moins de forme. Et puis là, j'ai quand même réussi à saisir le message. Mais selon les personnalités, si il n'y a pas un minimum de forme, la personne ne comprendra absolument rien. Et ce n'est pas qu'on ne peut rien dire à cette personne, c'est juste qu'il faut mettre un tout petit peu de forme. Je ne dis pas d'en mettre plein, mais un minimum.
Ouais, et puis si c'est le fait de faire une critique, pour faire une critique, ferme ta bouche, en fait, mm-hmm. parce que ça ne va pas amener forcément rien de constructif. Si tu es pour faire une remarque ou tu es pour critiquer, on le dit critique, hein, ce n'est pas dans le négatif. C'est, mm-hmm. Nous, on a dû s'habituer, même à EMCI, dans des réunions, et c'est la réalité, parce qu'on cherche l'excellence, on cherche à avoir des choses qui soient mieux. On a appris à se détacher un peu de ce qu'on fait. Je me rappelle au début, mm-hmm. il y a bien des années maintenant, quand je faisais des montages vidéo, quelqu'un venait et critiquait mon montage. Je le disais pas, mais en dedans, ça bouillait. Et puis là, je dis « OK, ouais ». Et à un moment donné, j'ai dit « Je m'en fiche, moi, je vais faire ce que je veux et je vais te dire qu'est-ce que tu me dis ». Et puis, je m'étais trop attaché au montage et je m'étais pas déconnecté ma personne du travail qui était fait.
Oui.
Mais la personne amenait une critique constructive pour amener une solution ou l'amener plus loin. C'était pas « Ouais, mais ça, c'est pas bien. Hein. »
Mm-hmm.
Non, mais c'est pas bien, on devrait faire ça parce que ça, ça, ça. Et même dans la famille.
Oui.
Sur ton enfant, tu as un enfant peut-être de 6, 7, 8 ans, au lieu de juste faire une critique, fais pas ça, c'est nul, ou pourquoi tu fais ça, mais apporte le pourquoi.
Mm-hmm.
Ça change tout. Mm-hmm. L'enfant est, comme j'ai dit, dans un ton de voix contrôlé, dans un environnement sécuritaire, comprenant quel âge il a, qu'est-ce qu'il peut percevoir, sa personnalité, etc. Tu prends tout ça en considération. Sinon, ben, ça cause des dégâts.
Mm-hmm.
Juste critiquer pour critiquer, il n'y a rien de bon là-dedans.
Absolument.
Il faut passer à autre chose.
Ouais. Critiquer pour améliorer. Et comme tu as dit, Annabelle, l'importance de la forme, pas juste du fond, de savoir la personnalité aussi de la personne à qui vous parlez, parce que ça fait la différence. Il y a des personnes qui aiment les choses directement, d'autres personnes, il faut parler d'une certaine manière. Mm. Et c'est la sagesse aussi à appliquer. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a des gens qui disent, moi, je dis la vérité et je la dis tout simplement. Mais comme Annabelle l'a dit, la vérité sans l'amour, c'est incomplet. Et c'est important de vraiment bien équilibrer les choses. Et avant d'aller à la rubrique famille, je vais vous partager notre verset du jour. Un verset que j'aime bien, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 10 à 11. Paul va dire, mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé.
J'ai l'impression, Nadine, que tu te sens concernée.
Vous comprendrez que le point...
Nadine, en fait, ce qu'elle veut nous dire, c'est juste mêle toutes tes affaires.
Exactement.
Et c'est bon.
C'est excellent comme point, Nadine, bravo.
Exactement.
C'est mon dernier point que je voulais dire, justement.
Ah ouais,
ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir une critique ou une remarque sur tout. On ne te demande pas ton avis,
voilà.
Passe à autre chose.
Mais exactement, la parole est claire. Non, mais c'est très important. Des fois, il faut juste dire, est-ce que c'est dans mon champ de juridiction? Peut-être que c'est tout simplement pas de mes oignons. Et on va juste. Et des fois, c'est dans la famille que des personnes devraient justement appliquer
Attends,
ce verset.
Je veux dire, avant que t'envoies la famille, de dire que malgré tous les bons conseils excellents qu'on a pu donner, il y aura forcément des moments où on recevra des reproches et ça va nous faire fuir parce qu'on n'aura pas la bonne réaction. Et on fera des reproches aussi, on aura beau y mettre la forme et tout ce qu'on veut, mais la personne ne le recevra pas. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on est toujours à côté de la plaque, mais ça arrive que quelquefois, ça ne passe pas.
Ça entre pas,
Et ce n'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter puis qu'on doit se dire, OK, c'est la dernière fois que je parle.
Oui, absolument. Et Annabelle, on va te laisser la parole.
Merci.
On va aller à la rubrique famille.
Alors, en tant que parents, vous savez tous qu'on est victimes, en tant que jeunes parents surtout, de tous les conseils, les reproches, les critiques, les « ah, mais moi, je ferai comme ci, pourquoi toi tu fais comme ça ?» Et quelquefois, ce n'est pas facile à gérer et on peut tomber dans un extrême ou un autre. Et on a intitulé cette rubrique « Famille, il faut tout un village pour élever un enfant ». ou pas. Et je crois qu'il faut juste trouver cet équilibre entre le village et l'entourage, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas forcément bon. Et du coup, on va voir comment quelques petits conseils pour pouvoir réussir à trouver cet équilibre, parce que je crois que la transmission est importante, ça fait partie des principes de Dieu. Mais pour qu'il y ait une transmission, c'est certain qu'il y a besoin d'avoir des ponts d'amour et des ponts de confiance qui se font. Alors comment pouvoir, en tant que parent, recevoir la critique constructive, et comment aussi, quand on voit des parents, d'autres familles autour de nous, apporter des bons conseils et de la bonne façon. Donc la première des choses, c'est la question en tant que parent que j'aimerais vous poser, c'est qui a la responsabilité de l'enfant ? À qui appartient cet enfant ? Qui devra rendre des comptes pour cet enfant ? Et en tant que parent, c'est nous qui avons la responsabilité de notre enfant. Donc ça, c'est le premier point à saisir. Puisque c'est ma responsabilité, c'est certain que je vais être la première personne en première ligne pour pouvoir savoir quoi, qui doit savoir et qui doit chercher à savoir quoi faire pour bien éduquer, pour bien élever cet enfant. Et on voit cet exemple dans l'histoire avec Joseph et Marie. Joseph reçoit des rêves. Dieu donne des rêves à Joseph, qui est le père... Oh, on ne va pas tomber dans un grand débat doctrinal, ok, d'accord ? Qui est le père terrestre de Jésus et qui en avait la responsabilité. Et Dieu parle à Joseph. Et on lit que Joseph se leva et prit l'enfant en pleine nuit. Il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait deux fois. Deux ou trois fois, et il a pris l'enfant parce que c'était sa responsabilité. Dieu lui a parlé et il a fait ce qu'il semblait être bon pour la protection de l'enfant, de cet enfant. Donc première question à vous poser, qui a cette responsabilité ? Et une fois qu'on va se sentir pleinement responsable, qu'on réalise c'est mon enfant, c'est pas l'enfant de ma mère, c'est pas l'enfant de ma tante, c'est pas l'enfant du voisin, eh bien je vais tout de suite prendre plus mes responsabilités à cœur, et puis à chercher c'est quoi un parent responsable. Deuxième chose, chercher et développer des convictions pour l'éducation des enfants. Alors pourquoi ? Parce que on va voir que c'est bien de recevoir des conseils, mais si nous-mêmes, on ne sait pas comment faire, si on n'a aucun modèle, aucune vision pour notre famille, pour nos enfants, ça risque d'être un petit peu confus, on va en prendre ici et là. Donc la première chose à faire, même si vous ne l'avez pas encore fait avec vos enfants, ont déjà un certain âge, prenez le temps de le faire, c'est de pouvoir vous arrêter et de prier, de demander à Dieu, Seigneur, à quoi doit ressembler notre famille ? À quoi doit ressembler notre éducation ? Puisque vous êtes la première personne responsable de cet enfant, je crois que Dieu va vous parler. Et on a cette histoire avec les parents de Samson, Manoah, le papa de Samson, et sa femme, qui ont reçu la visite d'un ange, et l'ange a parlé d'abord à la mère et lui a donné des instructions. Il lui a dit dans Juges, maintenant fais bien attention à ne boire, de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Là, cette femme a reçu plusieurs instructions sur ce qu'elle devait faire, ce qu'elle ne devait pas faire et sur ce que son fils était appelé à faire. Et selon ces instructions très précises, elle a pu élever, éduquer son enfant. Maintenant, quelqu'un qui venait la voir en disant « Ah, mais Samson, il a les cheveux un petit peu longs, faudrait quand même lui couper les cheveux. » Ah, elle s'est souvenue qu'elle avait reçu cette instruction de l'ange « Tu ne couperas pas les cheveux, le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Donc, c'était des conseils qui étaient irrecevables. Non pas que les conseils n'étaient pas bons, mais ils allaient contre les instructions qu'elle avait reçues de Dieu. Si elle n'avait pas reçu ces instructions, elle aurait pu écouter ici et là « Bah oui, il faut peut-être le faire parce que ça a marché avec un tel et avec un tel. » Donc, important, arrêtez-vous et cherchez ces convictions. Et le père de Samson, à qui l'ange n'était pas apparu, a fait cette prière. Il a dit « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Et c'est une prière à faire. Enseigne-nous quoi faire pour cet enfant qui naîtra ou cet enfant qui est né. Et il dit encore un peu plus loin, quand l'ange finalement revient, il lui dit « Lorsque ta parole s'accomplira, Comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant et qui aura-t-il à faire ? Et ce sont des questions qu'en tant que parents, on se pose forcément, mais peut-être qu'on les pose à la mauvaise personne, aux mauvaises personnes. Et la première personne à qui on doit poser cette question, c'est à Dieu. Et vous allez peut-être être surpris de ce que Dieu, va vous répondre, les instructions, qu'elles soient juste deux ou trois, mais qui seront très claires, mais qui sont tellement décisives pour toute la destinée de l'enfant, cette destinée précise que Dieu a pour lui. Dans le fait de chercher et développer des convictions, c'est de pouvoir aussi, selon ce que vous avez dans votre cœur, définir les valeurs de votre éducation, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez valoriser en tant que parent. Et c'est là où chaque famille va vraiment être différente, va avoir ses couleurs différentes. Dans certaines familles, c'est la communication. On veut passer des moments de qualité, on va créer des moments de discussion. Dans d'autres familles, ce sera plus les activités, ce sera le développement, ça autour des activités, ce sera la vie sociale, les voyages, les amis. Pour d'autres, vous allez mettre beaucoup l'emphase peut-être sur le caractère, sur d'autres, sur certaines performances, mais c'est de pouvoir avec le Seigneur toujours mais trouver un équilibre et puis que ça puisse ressembler. Votre famille doit avoir une certaine saveur, une certaine couleur et définir c'est quoi notre identité à nous en tant que parents et en tant que famille. Autre point, être humble pour grandir et s'améliorer en tant que parent. Alors là, c'est clair qu'on a besoin d'humilité. Peut-être que quand on est enceinte ou quand nos enfants sont encore petits, on se dit, moi, mes enfants seront pas parfaits parce que bon, voilà. Mais quand même, ce sera assez proche de la perfection. Mmh. Et bon, arrive ce qui arrive. Et là, tu découvres que ton enfant n'est pas parfait, que tu n'es pas parfait et que ton système d'éducation n'est pas parfait non plus. Et c'est le moment où on a besoin d'avoir un cœur enseignable, de savoir se remettre en question sans pour autant tout jeter à la poubelle. Je suis la pire des mères, etc. On va tous faillir, on va tous se planter royalement à un moment donné, prendre des mauvaises décisions, mal parler, s'emporter pour quelque chose où on n'aurait pas dû s'emporter, etc. Ça arrive à tout le monde. Et c'est de pouvoir aussi recevoir des messages sur l'éducation, comme on en fait souvent dans Bonjour chez vous, comme on en fait dans Parole de femme. Et j'ai remarqué que dans l'église, souvent, quand on fait des messages sur l'éducation, c'est des messages qui sont quelquefois durs à donner parce qu'ils sont durs à recevoir. Parce qu'on rentre dans une certaine intimité et c'est comme, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Moi, je fais comme je veux avec mes enfants, mais Dieu a donné un enseignement biblique et c'est important qu'on puisse, en tant que chrétien, s'ouvrir aussi à une éducation chrétienne, une éducation biblique qui vient transcender, qui vient bousculer quelquefois nos traditions, qui vient bousculer nos cultures, nos préjugés, toutes nos idées préconçues sur l'éducation pour recevoir cet enseignement qui est biblique, un enseignement biblique, mais un enseignement culturel. Et moi, j'ai souvent senti que ça dérangeait lorsqu'on parlait de l'éducation des enfants parce que les gens se sentent repris et c'est un sujet où on dit « je suis parent, c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide ». Mais quand Dieu intervient, quand Dieu veut vous parler à travers des enseignements, gardons un cœur ouvert et enseignable. Comme Moïse avec Jéthro, quand Jéthro est venu parler à Moïse pour lui dire « mais ce que tu fais, c'est pas bien, tu t'épuises le peuple », Moïse n'a pas argumenté, il s'est dit « oui, c'est vrai que je suis dans la mauvaise direction », il a pris le conseil et puis ça a été pour le mieux pour lui et pour tout le peuple. Dernier point, c'est savoir faire le tri, parce que pour pouvoir faire le tri, il a fallu passer un peu par toutes ces étapes et comme je disais, la transmission fait partie d'un des moyens d'enseignement que Dieu a depuis la nuit des temps pour nous. Et il dit dans Tite, il parle aux femmes plus âgées, qu'elles ne soient ni médisantes, ni adonnées au vin, etc., afin qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et c'est important qu'on puisse pouvoir se donner certains conseils, qu'on puisse pouvoir intervenir lorsque il y a des parents qui sont en difficulté, pouvoir apporter une critique constructive, pouvoir dire écoute, moi j'ai remarqué que la télé était constamment allumée dans votre maison, il y a toutes sortes de programmes qui passent et il y avait beaucoup de violence, etc. Et de pouvoir le dire, mais comme je l'ai dit en début de cette rubrique, c'est que c'est important de créer des ponts de confiance. On peut pas juste arriver comme ça chez quelqu'un, t'as la télé d'allumée, etc. Donc c'est de pouvoir avoir un cœur bienveillant, pour pouvoir donner certaines critiques, certains reproches, pour aider les autres, peut-être des plus jeunes mamans, en tant que mamie, en tant que belle-maman, en tant que tante, en tant qu'amie aussi. C'est de s'assurer, je suis pas juste en train de vouloir imposer mon propre modèle d'éducation. C'est vraiment parce que je crois que c'est quelque chose qui va apporter quelque chose à cette famille, quelque chose qui va pouvoir aider, qui va pouvoir même sauver, protéger un enfant et s'assurer qu'on a ses dispositions. Et puis, en tant que parent, c'est comme la Bible nous le dit pour les prophéties, on examine, puis on retient ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ce qui va pouvoir faire aussi la différence. Et je crois qu'il ne faut pas partir dans un extrême ou dans un autre, parce que si on accepte tous les conseils, c'est qu'on ne s'est pas arrêté pour recevoir la vision pour nos enfants. Mais si on refuse tous les conseils, c'est qu'on a une vision qui est trop arrêtée. On a besoin des autres pour pouvoir faire le mieux possible. On a besoin de l'expérience des autres. Mais maintenant, l'expérience des autres, ce ne sera pas mon expérience. Je ne peux pas prendre l'expérience de quelqu'un, le conseil de quelqu'un comme une fondation. Mais les conseils autour de moi pour l'éducation de mes enfants vont venir soutenir les convictions que j'ai reçues de la part du Seigneur dans la prière, les convictions que j'ai cherchées, les valeurs qui nous correspondent, et ces conseils vont venir m'aider à les mettre en pratique, vont venir m'aider à garder le bon cap, à ne pas me perdre dans des moments d'épreuve, dans des moments de fatigue, dans des moments de défi même au sein du couple où on peut perdre un peu de vue ce qu'on avait prévu pour nos enfants. Donc oui, les conseils sont une bonne chose. Maintenant, apprenons à faire le tri, apprenons à construire, avoir une fondation solide pour pouvoir recevoir ces conseils.
Amen. Merci Annabelle, une excellente rubrique, merci beaucoup. Et quand tu parlais, c'est tellement important, je crois que en tant que parent, on vous invite vraiment à faire le tri. Moi, je me rappelle quand j'ai eu Gabriel, quand il est né, il avait froid. Et donc, ils l'ont amené ailleurs pour le mettre dans une couveuse pour qu'il prenne la bonne température. Et ça faisait quelques minutes qu'il venait de naître. Et j'ai entendu un bébé pleurer, j'ai dit, c'est mon bébé qui pleure. Et l'infirmière m'a dit, mais il vient juste de naître, votre bébé. J'ai dit, c'est mon bébé. Et effectivement, c'était lui parce qu'ils l'ont ramené pour qu'on fasse un pot à pot. Et ça m'a montré qu'en fait, en tant que parent, je connais mon enfant, je porte mon enfant dans mes entrailles. Mais tout en grandissant, mais à un moment donné, j'ai besoin aussi des autres. Et comme tu dis, on a besoin de l'expérience peut-être de quelqu'un. Mais vraiment, en tant que parent, si on est trop arrêté puis on veut pas que les gens nous aident, il y a un problème. Dites-vous que oui, vous avez la responsabilité. On vous arrache pas votre enfant en vous donnant des conseils. C'est pour vous aider parce que à la fin de la journée, cet enfant doit grandir et devenir un adulte qui va être épanoui, qui va contribuer à l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, ce n'est pas en trop, mais vraiment, comme on a dit, faites le tri. Sachez que la responsabilité, elle vous vient d'abord à vous. Et fortifiez-vous aussi dans la prière, dans le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné ces enfants. Tu me donnes la capacité de les élever. Tu me donnes la sagesse pour pouvoir le faire. Alors demain, on va se retrouver parce que notre émission est arrivée à sa fin. Et demain, nous allons avoir notre émission du vendredi, donc avec C'est mon histoire, un beau témoignage d'Alexandre qui va nous parler de comment il était violent, mais Dieu l'a transformé. Alors nous espérons que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Passez une excellente journée et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.